Vous êtes sur RTL.
On la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est l'une des infos de la matinée, même s'il n'y en a eu beaucoup. Nicolas Hulot se retire de la vie publique. Bonjour Anna.
Bonjour.
Est-ce que vous bonjour, le Pascal. Comprenez ? Est-ce que vous avez une remarque à faire ou un sentiment à donner ?
Oui, je crois comprendre. Je crois le comprendre. Je crois imaginer pourquoi.
Bon, nous allons développer avec vous dans quelques instants et on rappelle les titres avec Amandine.
Et à la une, effectivement, Nicolas Hulot qui quitte définitivement la vie publique. L'ancien ministre se dit écœuré par les accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui, des accusations qu'il rejette en bloc. Un je n'ai, dit-il, jamais contraint à qui que ce soit. Dans l'actualité, également l'heure du jugement pour Karim Benzema, le joueur condamné à 1 an de prison avec sursis dans l'affaire de la sextape, c'est plus que les réquisitions. Première réaction de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot. C'est une affaire classée, dit-il ce midi au micro RTL de Christian Olivier.
Il a été suffisamment martyrisé depuis 5 ans pour qu'on y ajoute. On n'a pas d'avoir de texte qui corresponde à une augmentation de sa peine ni à une éventuelle interdiction. Donc en ce qui me concerne, il n'y aura pas de suite sportive. C'est comme, prenez un exemple d'un quelqu'un dans une entreprise qui a un accident, qui a tort. Il prend 3 mois avec sursis et puis une amende. On l'empêche de travailler ? Voilà. Bon, écoutez-moi, en ce qui concerne, je trouve que cette affaire quand même qu'il y a déjà 5 ans, mais il n'est pas question que la fédération prenne une sanction contre Benzema. Regardez ce qu'il fait ces derniers temps, il se conduit bien. Au Real, il est magnifique. Je pense qu'il doit être dans les, pas ballon d'or, mais dans les premiers. De quoi on se plaint ?
La toute première réaction de Noël Le Graët, donc après cette condamnation de Karim Benzema. Et puis PDG d'Orange, Stéphane Richard, lui est condamné à 1 an de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende. Il s'agit de l'arbitrage, de l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. À l'époque, il était directeur de cabinet de Christine Lagarde et est reconnu coupable donc de complicité de détournement de biens publics. Le conseil d'administration d'Orange fait savoir qu'il tirera les conséquences de cette condamnation d'ici à la fin de la journée. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy. C'est toujours bien pluvieux au sud.
Oui, des pluies soutenues et orageuses sur le golfe du Lion, Amandine, et plus particulièrement sur l'Aude, placée en vigilance orange pluie inondation jusqu'à ce soir 22h, donc prudence. Beaucoup de pluie également sur l'Hérault. On a déjà relevé jusqu'à 150 mm de précipitations sur l'est des Corbières, soit 1 à 2 mois de pluie localement. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants. Ces pluies, elles se prolongent sur le sud-ouest jusqu'au Bordelais, mais elles sont moins fortes. Et puis sur un peu plus au nord, entre les Charentes, le Limousin, en allant vers la région PACA, le ciel est voilé. Et sur toute la moitié nord, le temps est beaucoup plus calme. Les grisailles se dissipent. Le soleil va finir par s'imposer. Allez, peut-être quelques grisailles tenaces qui résistent entre la Normandie, l'ouest de la région parisienne et le Hauts-de-France. Et puis sur les bords de Manche, ça reste encore couvert hein, avec quelques faibles pluies. Les températures, elles sont fraîches au nord. On est souvent 2 à 3 degrés sur les normales, 4 à Nevers, 5 à Mulhouse, 6 à Paris, on devrait avoir 9 degrés à cette période de l'année, 6 à Reims également, 7 à Nantes, 11 à Brest comme à Bordeaux, Toulouse et Montpellier, 16 à Marseille et 17 à Nice.
Bon, et demain ce sera bien bien gris ?
Bien bien gris exactement, et encore pluvieux sur toute la moitié sud, avec une limite pluie-neige dès 1100 mètres, ça va durer toute la journée, un ciel couvert sur la moitié nord mais sec, juste quelques gouttes comme aujourd'hui sur les bords de Manche, et dans l'après-midi, quelques trouées possibles sur la moitié nord. Côté température, encore pas mal de gelée sur le nord-est et le centre-est, on se couvre bien. L'après-midi, de 2 à Langres à 15 à Marseille, 4 à Metz, 7 à Bordeaux, 8 à Paris, ça remonte un peu, et 10 à Rennes.
Merci Peggy.
Merci Peggy, merci Amandine et merci à Ludovic van de Kerckhove qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Il est 13h05.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors je rappelle que Nicolas Hulot était ce matin l'invité de notre confrère Bruce Toussaint sur BFM. Et il a pris la parole 24 heures avant un reportage qui sera diffusé demain sur France 2 dans le cadre de l'émission Envoyé spécial, dans laquelle 4 ou 5 femmes porteraient des accusations contre lui, en plus de la petite fille de François Mitterrand dont la plainte pour viol avait déjà émergé il y a 4 ans. Et c'est parce qu'il sait que ce reportage est diffusé demain, qu'il y a des accusations d'agression sexuelle et de viol contre lui, qu'il a pris les devants, si j'ose dire, et annoncé qu'il renonçait à toute vie publique. Il n'a d'ailleurs pas vu encore le reportage qui sera diffusé demain sur France 2. Anna est avec nous, et Anna oui. est avocate. C'est oui. un sujet très délicat, parce que les faits dont on parle sont prescrits. A priori, ce sont des affaires qui datent des années 80, fin des années 80, début des années 90, lorsque Nicolas Hulot était vedette de TF1. Donc c'est des sujets extrêmement délicats, je le disais, parce que ces affaires sont prescrites et parce que par définition, 25 ou 30 ans après, il n'y a plus de preuves ou pas de preuves et ce ne sont que des témoignages. C'est parole contre parole, comme on dit. Anna, je vous donne la parole.
Alors, moi, je comprends sa réaction. Alors, que ces faits soient avérés ou pas, de toute manière, ils sont prescrits. Et de toutes les manières, nous sommes dans une époque où il n'y a plus de possibilité de faire valoir la présomption d'innocence. Et c'est toujours le même problème. Le tribunal médiatique, l'importance des réseaux sociaux font que une vie se fait ou se défait. Et une fois qu'elle est défaite, très difficile de la refaire derrière de manière publique. Il se trouve que Nicolas Hulot, pour qui je n'ai pas forcément une sympathie particulière, mais du point de vue purement objectif, a des mandats dans des fondations qui sont proches de ses convictions, et que si ses convictions sont salies tout simplement du fait de la personne même de Nicolas Hulot et du tribunal médiatique qui va forcément être déferlant sur lui et sur lequel il pourra pas faire grand chose finalement. Il va pas pouvoir porter plainte contre le reportage envoyé spécial et dire voilà c'est diffamatoire, enfin tout ça. Encore faudrait-il qu'il en apporte la preuve, mais en tout cas contre le tribunal médiatique et tous les réseaux sociaux qui vont l'inonder en le maltraitant ou pas d'ailleurs, hein, en le condamnant ou pas d'ailleurs, il y en a qui se tiendront, il y en a forcément qui vont le condamner sans être jugé, sans avoir ni les tenants ni les aboutissants, et ben ça va nuire de toutes les manières à ses fonctions et avant que les fonctions qu'il a, on le mette à la porte, il a bien raison de partir de lui-même. C'est encore un tout petit peu de dignité qu'il pourra avoir.
Alors voilà ce qu'il a dit, je le rappelle, ce matin. Ni de près ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont mensongères. Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, vous l'avez dit. Je quitte mon engagement. Je ne m'exprimerai plus, c'est trop lourd. Payé. C'est vrai que cette affaire rappelle celle dont j'allais dire dont est victime. Je ne sais pas si c'est l'expression qui est juste, mais celle qui occupe Patrick Poivre d'Arvor. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui 20 ans, 25 ans ou 30 ans plus tard témoignent. Et là où effectivement, si on est parfaitement objectif ou honnête ou neutre sur ces deux affaires. Ce qui est étonnant ou frappant, c'est le nombre de femmes dans les deux cas qui témoignent. On ne peut pas balayer d'un trait qu'il y ait 5 femmes qui témoignent dans une affaire et qu'il y en ait aussi 6, 7, 8 ou 9 dans une autre affaire. Ce que je dis là est factuel, ce n'est pas une femme, c'est plusieurs. Donc forcément, on est ébranlé lorsque 5 femmes ou plusieurs femmes prennent la parole.
Oui, mais Pascal... Oui,
mais j'entends, hein, j'essaye vraiment d'être au plus près de ce que je pense, pour tout vous dire.
Puisque vous voulez être au plus près, objectivement, c'est parole contre parole. Mmh. Et le fait que ce soit parole contre la parole, le nombre peut éventuellement induire une présomption, mais qui ne doit pas enlever la présomption d'innocence.
Mais vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et effectivement, ce qu'il faudra maintenant étudier, c'est est-ce qu'une affaire peut être mise sur la place publique lorsque la justice s'est prononcée. Et là, c'est la phrase de Hulot, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Il a juridiquement raison. Il est innocent sur le plan juridique. Donc, ça pose aussi un problème aux médias, en l'occurrence aux journalistes. Donc, vous voyez, c'est un problème extrêmement complexe. J'essaye de donner les éléments de chaque côté du dossier, sans évidemment exprimer un avis, puisqu'on ne peut pas avoir un avis sur le fond, sur ce dossier. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est l'annonce qui vous fait réagir au 3210 et sur nos réseaux sociaux. Celle de Nicolas Hulot ce matin chez nos confrères de BFM. L'ancien ministre a dévoilé être visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol.
Je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement et je ne m'exprimerai plus. Dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. C'est trop lourd payé.
Nicolas Hulot va donc quitter la présidence d'honneur de sa fondation, des accusations qu'il a démenties ce matin.
Je n'ai jamais contraint qui que ce soit, notamment quand j'étais célibataire. Mais ai-je besoin de justifier ma vie privée ? J'ai été séduit, j'ai séduit. J'ai été des femmes qui ont essayé de me séduire, j'ai essayé de séduire. C'est l'essence de la vie, ni de près ni de loin. Je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères.
Nicolas Hulot qui quitte définitivement la vie publique. Vous pouvez continuer de réagir au standard.
Nous sommes avec Patrick, bonjour, qui habite dans le Morbihan. Bonjour Patrick.
Bonjour, je vous trouve très en forme. Hein. Faut continuer comme ça. Hein. Là, franchement, là, en ce début de semaine, vous avez la pêche, hein, c'est bien. Hein.
D'abord, c'est très gentil, mais je vois une sorte d'ironie dans vos propos,
ah non,
cher
pas
Patrick.
Du tout, je me permettrai pas.
Là, c'est un sujet pour le coup tellement touchy, comme on dit, que je me garderai bien de m'engager dans ce sujet.
Bon.
J'essaye de donner simplement toutes les pièces du dossier, si j'ose dire.
Ouais. Alors moi, je vais vous dire, je soutiens à fond Nicolas Hulot. Je regrette seulement qu'il ait pris la décision d'arrêter, parce que à partir du moment où on prend la décision d'arrêter, c'est un peu aussi dire, écoutez, vous avez raison, j'ai fait des bêtises. Et moi, je voudrais apporter mon témoignage, parce que dans ces années de 80, j'étais moi-même animateur sur un carpodium en région de Normandie pour un grand journal local. Et nous faisions des opérations commerciales dans lesquelles étaient invités les chanteurs. Donc mon rôle était de présenter, mais surtout de chauffer la salle, de chauffer les personnes qui étaient présentes pour assister au gala. Et je vous assure que j'ai vu des jeunes filles, donc qui sont aujourd'hui des jeunes femmes, ou des femmes plutôt d'un certain âge, mais qui pourraient aujourd'hui porter plainte contre ces mêmes chanteurs, parce qu'elles étaient totalement hystériques. Elles auraient fait n'importe quoi pour se retrouver dans leur lit. Donc partant de là,
le rapport,
le rapport, c'est de dire que...
Quel est le rapport avec Nicolas Hulot ?
Ce sont des choses d'il y a 30 ans. Donc il y a 30 ans, c'est ça mon truc, c'est de vous dire que...
Alors il y a 30 ans, on avait le droit... Alors on ne parle pas de Nicolas Hulot, mais il y a 30 ans, on avait le droit d'abuser des filles et d'ennuyer des filles.
Mais ce n'est pas d'abusement, mais ce n'est pas abusé. Je vous dis que M. Hulot a pu, et il l'a dit, avoir séduit ou avoir été séduit par des femmes qui étaient des groupies. C'était des groupies. Et là,
en l'espèce, la jeune femme qui avait porté plainte contre lui, qui est la petite fille de François Mitterrand, qui est Pascal Mitterrand, c'était pas une groupie, c'était une photographe à l'époque, et qui a accusé Nicolas Hulot d'avoir abusé d'elle.
Oui, mais attendez.
Il n'y a pas attendez. Moi, je ne.
Je suis pas d'accord.
Comment dire, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je.
Non, je suis pas
dites
d'accord.
Pas, attendez. Que... Dites pas. Attendez. Moi, je ne dis rien. Je peux dire simplement, madame dit ça et monsieur dit ça et tous les deux ne disent pas la même chose. Mais je ne dis pas. Attendez.
Monsieur Hulot n'a pas été condamné. Il est déjà.
Mais il n'a pas été condamné parce que les faits sont prescrits.
Non, mais même, oui, mais en admettant même, on fait la justice avant le tribunal. Et alors, ce que je trouve aberrant, c'est si ce que vous avez dit est vrai, ça veut dire qu'on va en plus montrer un documentaire dans lequel il est incriminé sans qu'on lui donne le droit de réponse ou le droit d'être présent.
Patrick, là, j'imagine qu'on lui a demandé, que c'est lui qui a refusé d'être dans le sujet, ça j'imagine parce que ça se passe toujours comme ça, mais là où vous avez raison, c'est que se pose un problème pour la justice médiatique et la justice tout court. Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que les médias peuvent parler d'un sujet qui est soit classé, soit jugé par la justice ? Voilà. Et ça, c'est une bonne question. Parce que parfois, les affaires ont été classées, parfois, les affaires sont prescrites, parfois, les affaires sont jugées. Est-ce que les médias, malgré tout, peuvent donner la parole à ceux qui contestent soit un jugement, soit... qui contestent, en l'occurrence, si c'est prescrit et si c'est classé. On ne conteste pas, simplement, on s'exprime, mais il n'y a plus de recours possible. Donc ça, c'est une bonne question, Patrick. C'est une excellente question.
moi, j'espère que M. Hulot écoute votre émission, qu'il sache que je suis en Bretagne, on l'apprécie et il a tout mon soutien. Voilà.
Mais ce qui est toujours, donc, si vous me permettez, Patrick, ce qui est amusant, oui. Si vous me permettez, c'est pourquoi vous avez un avis ? Pourquoi vous imaginez que ces cinq femmes-là mentent ? Parce que moi, je n'en ai pas, par exemple. C'est ça qui m'intéresse toujours. Là, il y a deux paroles contradictoires. Oh, je veux dire, on peut dire, tiens, il y a deux personnes qui ne disent pas la même chose. Pourquoi vous pensez que ces cinq femmes-là mentent ? Ça m'intéresse, Patrick.
Je pense que... Alors, qu'elles mentent, qu'elles enrobent les choses. Voilà.
Bah, qu'elles mentent, vous pensez qu'elles mentent, puisqu'elles disent « j'ai été agressée sexuellement, j'étais non consentante ». Alors, pourquoi vous pensez qu'elles mentent ?
Alors, je pense qu'elle ment parce que c'est la personnalité de Nicolas Hulot, c'est pas une autre personnalité. Et que d'autre part, on verra avec le reportage, on verra. J'aimerais savoir.
Mais pourquoi vous avez déjà un avis ? Vous l'avez même pas vu le reportage ?
Ah, moi j'ai un avis. Ah, mais moi j'ai un avis parce que.
Avant d'avoir vu le reportage ?
Ouais, avant d'avoir le reportage, je suis derrière Monsieur Hulot. Voilà.
Bah écoutez, c'est bien.
Parce que, encore une fois, je pense au phénomène groupie et je pense qu'à l'époque, Monsieur Hulot était une vedette de la télé, une vedette des émissions.
Mais même les arguments que je vous ai donnés sur Pascal Mitterrand, ils passent pas.
Non.
D'accord. Et c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. 13h20, merci beaucoup Patrick. Et on revient pour évoquer Nicolas Hulot, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Nicolas Hulot a annoncé ce matin qu'il quittait définitivement la vie publique. L'ancien ministre a dévoilé être visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et viol. Nicolas Hulot dit devancer la diffusion d'un documentaire télévisé demain soir dans Envoyé spécial sur France 2 qui donne la parole à des femmes qui l'accusent, accusation qu'il a démentie.
Je suis déjà condamné. Ma mort sociale est programmée. Je suis frappé du sceau de l'infamie. Ma famille est atteinte. Ma fondation est condamnée aussi. Donc, je suis condamné parce que, en plus, quand vous êtes dans une certaine notoriété, je suis condamné à cette mort sociale, je suis condamné à ce sceau infâme de l'ignominie, sans avoir eu les moyens, en quoi que ce soit, de me juger.
Vous pouvez continuer de réagir au 32-10.
Après, on peut répondre à Nicolas Hulot. Il peut, puisque l'affaire est désormais sur la scène médiatique, il peut organiser ou proposer lui-même, sur une chaîne de télévision, un débat contradictoire avec celle qui l'accuse. C'est une possibilité, puisque ça ne peut pas se faire manifestement sur le terrain de la justice. Donc, il peut proposer, pourquoi pas, ce genre de choses. Laurent, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Qu'en pensez-vous ?
Oui. Moi, j'en pense tout simplement que c'est inadmissible, c'est scandaleux ce qui lui arrive, mais complètement scandaleux. Imaginez-vous que cette personne, Nicolas Hulot, comme Morandini, comme les autres, sont des personnes publiques, ce sont des cibles, comme Karim Benzema. Imaginez-vous que ces gens-là coûtent de l'or, valent de l'or. Donc, bien évidemment, 30 ans après, on arrive à déposer une plainte. Mais attendez, il a le droit de coucher avec quelqu'un. Et puis, aujourd'hui,
c'est
une
pas
femme...
Ce qu'on lui approche,
attendez,
Laurent,
attendez, Pascal.
Si vous
attendez,
me permettez,
Pascal.
C'est pas ce que non. disent ces femmes.
Oui, attendez, ils disent ce qu'ils veulent. Mais attendez, vous savez, mais ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est scandaleux. Ça, c'est un coup monté. Comment on a fait un coup monté à Strauss-Kahn ? J'en suis intimement persuadé.
Ah oui, donc, si vous pensez que Dominique Strauss-Kahn non plus n'était pas, n'avait rien fait. Mais ce qui m'amuse toujours, Laurent, comment vous pouvez, c'est ça qui, j'essaye toujours de comprendre les uns et les autres. Vous n'étiez pas dans cette chambre, moi non plus. Pourquoi vous avez une certitude ? Puisque moi, je n'en ai pas, j'en ai en général sur pas grand-chose, mais je ne sais pas, j'entends, je constate que cinq personnes ne disent pas la même chose que lui, c'est tout.
Mais je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'elles étaient de toute façon consentantes, et ça remonte à 30
savez
ans, mais c'est sûr.
Vous savez, Pascal... J'entends, je repose ma question. Par exemple, Pascal Mitterrand, je cite son nom, puisqu'elle avait accepté de livrer son témoignage. Elle dit « j'ai été agressée sexuellement ». Pourquoi vous dites, comment dire, c'est pas une groupie, Pascal Mitterrand, elle était photographe à l'époque, c'est la fille de Gilbert Mitterrand, elle est dans un milieu favorable, oui. Comment dire, culturellement, intellectuellement, on peut imaginer qu'elle a le sens des réalités, et elle va en Corse et elle raconte ce témoignage. Moi, je l'écoute, je l'écoute.
Je suis d'accord, Pascal, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ont de plus en plus de mal, où il va falloir faire un procès à quelqu'un pour récupérer de l'argent. On est dans une société, excusez-moi, pourrie. J'ai travaillé en télévision, ça a l'air bizarre, je suis bouché, mais j'ai travaillé en télévision pendant 10 ans. Vous êtes aguiché par des jeunes. Je travaille sur RTL 9, vous voyez, RTL 9 Lorraine. Et j'anime une émission quotidienne. Mais je peux vous dire que vous êtes aguiché par des gamines de 17 ans, 16 ans, qui en paraissent 20, 25, et qui sont là parce que vous avez la notoriété. C'est dégueulasse.
Laurent, ce que vous dites n'est pas... Je conteste ce que vous dites, parce que je fais ce métier depuis longtemps, et je peux vous assurer que ce que vous dites n'existe pas, et en tout cas qu'il y a une manière aussi de se conduire, lorsqu'on a un peu de notoriété, il y a une manière voilà, notamment avec des gens plus jeunes. Pardonnez-moi, moi, je ne veux pas faire de morale à personne, oui. Mais quand t'as 57 ans, ce qui est mon cas, tu te conduis d'une certaine manière avec des gens de 20, 25 ans que tu rencontres, avec qui tu travailles. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
Oui, mais tout à fait. Mais vous savez, c'est comme Jean-Luc Lahaye, c'est pareil. Je vais pas changer de sujet. Jean-Luc Lahaye, il aime bien les jeunes filles. Mais je veux dire, voilà.
C'est qu'il aime bien les jeunes filles, c'est qu'il est accusé de viol sur des mineurs. C'est pas. Non, je veux dire, les mots ont un sens, si vous me permettez. Alors présomption d'innocence, bien sûr, toujours. Il y a aucun souci. Mais vous voyez, c'est pas. Il aime bien les jeunes filles.
Oui, non, mais de 20 ans, de 21 ans, on a le droit, comme Patrick Bruel, on a le droit d'avoir 57, 60 ans.
C'est Patrick Bruel en dehors de convoler, ça, le pauvre.
Et de convoler avec une fille de 25, 27 ans.
Oui, chacun fait ce qu'il veut quand les adultes sont consentants, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, si vous me permettez. En tout cas, certaines disent, parce que je prends des précautions, qu'on n'était pas dans ce cas-là. Mais en revanche, cette justice médiatique pose problème. Effectivement, que ce soit Élise Lucet qui devienne en France la juge numéro un de ces affaires-là peut poser problème dans un documentaire demain qui sera sans doute à charge. Parce que c'est sa manière aussi parfois de mettre en place ses arguments télévisuels. C'est vrai.
Est-ce que vous ne croyez pas un coup monté, franchement? Est-ce que vous ne croyez pas un coup monté politique?
Je suis neutre, voyez-vous, je suis neutre parce que je connais mal l'affaire, j'ai pas vu le document, j'attends de le voir. L'autre jour, il y avait une émission sur France 5 où il y avait 5 ou 6 jeunes femmes qui témoignaient, c'est une affaire en parallèle sur l'affaire PPDA, je les ai écoutées. Et après, chacun se fait son opinion. Vous savez, quand vous entendez un témoignage, vous faites une opinion, vous dites est-ce que la jeune femme est sincère, est-ce que vous sentez qu'elle est équilibrée, est-ce que ce qu'elle dit vous paraît plausible, et de ça, vous faites une opinion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous pareils. Donc j'attends de voir demain.
Bah vous savez, moi je vais vous dire, pour conclure, Monsieur Pro, j'ai eu des petites copines, comme tout le monde, quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans, et je peux vous dire quelque chose. Maintenant, j'ai peur que quelqu'un porte plainte, parce que voilà...
On en est là. Laurent, 30 ans moi après, j'ai eu des petites copines, après. Et j'ai pas peur que personne ne portera plainte contre moi, je vous assure. J'ai pas de soucis, si vous me permettez.
32 ans après, rendez compte, Monsieur Pro, 32 ans après.
Oui, bien sûr.
Scandale.
Alors ça, c'est encore autre chose, mais là, l'époque a peut-être changé. En tout cas, merci Laurent, parce que c'est bien, votre témoignage est intéressant. On marque une pause et on retrouve après Monsieur Olivier, qui est un gentleman précisément avec les filles, puisqu'il respecte lui les gestes barrières, puisque comme ça, il ne les aborde pas. Donc comme ça, il a aucun souci de ce type. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et je vous avais annoncé Olivier sur la page Facebook, il est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal et bonjour à tous. Sur nos pages Facebook et Twitter, pour Karine, Nicolas Hulot fait bien de se retirer avant que le rouleau compresseur médiatique ait raison de lui, Eric, dans le même sens. Dans la société d'aujourd'hui, on est coupable avant d'être jugé, ça me fait peur. Et on termine avec Franck qui nous dit s'il se retire de la vie publique, c'est parce qu'il se sent coupable, selon lui.
Mais je pense pas que ce soit sa motivation, manifestement. Il a été plutôt d'ailleurs convaincant sur ce thème-là. Laurent Tessier.
Mais un conseil de défense sanitaire s'est tenu ce matin. Avec l'accélération de l'épidémie de Covid-19, que compte faire l'exécutif? À plus de 30 000 cas positifs de Covid-19 ont été recensés en 24 heures. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, vient de s'exprimer.
Le Conseil de défense et de sécurité nationale s'est réuni ce matin avec un cap clair que je veux réitérer à nouveau. Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. Des orientations claires ont été actées ce matin dans trois directions. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur. L'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Ces orientations et les mesures possibles seront présentées cet après-midi aux présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et demain matin aux associations d'élus locaux. Le ministre des Solidarités et de la Santé tiendra demain à la mi-journée une conférence de presse pour annoncer les mesures qui auront été retenues à la lumière de ces concertations et de ce travail.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il y a quelques instants.
Bon, c'est plutôt rassurant. Manifestement, le gouvernement souhaite garder le cap et pas de restrictions en vue, ni couvre-feu, ni confinement. Espérons que ça tienne. On change de sujet. On va parler des écoles, précisément de ces 6000 classes qui sont fermées. Nous sommes avec Karine. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal Pro.
Bonjour Karine. Vous avez une petite fille, je crois.
Oui, elle a 4 ans. Elle est en maternelle.
Donc, en maternelle, il n'y a évidemment pas de masque et personne n'est vacciné.
Non.
Bon. La classe a été fermée ?
Alors, en fait, ce n'est pas la classe qui a été fermée. Ils ont pris des mesures d'isolement pour les enfants qui sont cas contact d'un enfant qui a été testé positif et qui a donc mangé à la cantine. Et ils ont pris en considération que tous les enfants qui mangeaient à la cantine au même moment, au même jour en tout cas, étaient considérés cas contact. Donc ça représente quasiment toutes les classes de maternelle, quoi. Donc je suis révoltée parce que ma fille n'a pas du tout
mangé. Moi, j'ose plus rien dire parce que je trouve ça extravagant. Mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Et en plus, si on émet une parole différente, on passe parfois pour quasiment un assassin.
Exactement. Ils ont considéré également que le dortoir faisait partie des lieux cas contact. Donc ils ont pris tout en compte. Les couloirs, le dortoir, la cantine. Donc tout le monde est cas contact. Alors que ma fille n'est pas dans la même classe et qu'elle n'a sûrement jamais rencontrer ce petit garçon. Donc moi, je suis coincée pendant 7 jours avec un métier qui ne m'autorise absolument pas à rester à la maison pendant 7 jours avec un enfant.
C'est combien de jeunes enfants ?
Alors, je ne sais plus. Je crois que ça représente 30 enfants, c'est certain, parce que j'ai eu le directeur en ligne pour demander un petit peu ce qui s'est passé. Et ils ont été contraints par l'ARS qui leur a imposé de prendre en considération un maximum d'enfants qui peut être cas contact. Donc c'est énorme, quoi.
Ces témoignages sont formidables parce qu'ils montrent évidemment le climat et en plus qui peut durer. C'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que ça peut durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc
vous,
comment vous faites ? Vous êtes alors, vous êtes vous allez vous organiser avec votre compagnon peut-être pour
exactement mon mari. Donc c'est une catastrophe parce que lui non plus n'a pas un métier qui va lui permettre de garder la petite à la maison. Concrètement, on ne peut pas du tout. Donc, on va solliciter fort heureusement la grand-mère d'un côté pour aujourd'hui, hein, c'est le cas.
Donc ça, c'est bien parce que la grand-mère, comme vous dites, elle habite dans la même ville ?
Oui, elle n'est pas très loin, elle est à 5 minutes.
Donc
hein,
ça, c'est très important. Les grands-parents la même ville, je le dis pour les jeunes couples.
C'est indispensable.
Voilà, mariez-vous si vous êtes un garçon avec une femme dont les parents habitent dans la même ville. Et si vous êtes une femme, mariez-vous avec un garçon dont les parents habitent dans la même ville. Croyez-moi, ça peut vous aider au quotidien.
Absolument. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Demain, ça va être le tonton. Et vendredi, là, je suis en télétravail. Donc je vais garder la petite. Mais il faut bien savoir qu'elle a 4 ans et qu'elle ne s'occupe absolument pas toute seule. Hein. Donc moi, je ne vais pas travailler comme d'habitude vendredi. Hein. Donc, mais il n'y a aucun moyen de faire autrement. Quoi.
Alors, Damien...
Donc c'est un peu des mesures hypocrites. Quoi.
Damien Béchiot me rappelle, et il a bien raison, que je suis un peu d'un modèle ancien. On peut se marier quand un homme avec un homme et une femme avec une femme, bien évidemment. Et
à
chaque fois, il faut penser aux grands-parents. Parenthèse refermée, chère Karine. Bon, donc vous, effectivement, vous êtes handicapé dans le job. Et... Alors ça va durer combien de temps ?
Alors là, du coup, on a eu l'information hier et retour à l'école prévu lundi prochain. Donc voilà, c'est quasiment toute la semaine. Donc on met en plan tout. Donc moi, j'ai un métier, je ne peux pas. Je fais des expertises contradictoires pour les assurances, je ne peux
mais
pas.
Mais est-ce
planter.
Que vous le comprenez? Est-ce que vous vous dites qu'il y a une logique sanitaire qui frappe la France, qui frappe évidemment la jeune mère de famille que vous êtes, ou est-ce que vous ne le comprenez pas?
Là, moi, j'ai pas compris. Tout simplement parce que je n'ai pas senti, on va dire, le danger vis-à-vis du Covid par rapport à ma fille dans ce cas précis. Elle n'était pas du tout à la même table que cet enfant qui était testé positif. Donc, la mesure-là me paraît extrême par rapport au danger qu'il peut induire.
Mais on peut pas tester tous les gosses?
Eh ben, ils ont été testés, mais avant. En fait, tout ça résulte de quoi? D'un test qui a été fait vendredi dernier. Donc le test qui a été donné à tous les enfants, le test salivaire, et donc en fait ça résulte de ça, il y a un enfant qui a été testé positif, et donc ils ont repris tous les enfants qui ont été à proximité, et ils ont mis tout le monde à l'isolement, donc il y a même eu un test.
Et vous savez le grand paradoxe de ce que vous dites, c'est que ces enfants, on les envoie où aujourd'hui? Parce que si vous, vous faites ça,
les grands-parents.
Exactement, qui eux sont à risque.
Donc
c'est ça qui est absolument fascinant. C'est-à-dire que si tant est que ces enfants aient le Covid, on va les envoyer comme vous chez leurs grands-parents, parce que les parents travaillent bien souvent. Et
bien
cette
sûr.
Population-là, si vraiment elle est contaminée, elle peut être en grand danger. Alors que si ces mêmes enfants étaient restés à l'école, ils ne font pas de cas graves. Mais on marche parfois sur la tête, cher Karine.
Je mets un petit bémol sur ce que vous dites, parce qu'on a bien pris en considération que les gens qui vont garder ma fille sont vaccinés. C'est la seule module que je vais mettre à vos paroles. Donc on fait quand même attention par rapport à ça. Mais on ne prend aucun risque à partir du moment où elle est gardée avec des gens vaccinés. Moi, j'ai l'impression que ça a été mis en place pour protéger ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce que nous, on est vaccinés, les petits ne sont pas des cas graves.
Merci,
donc je ne sais
Karine.
Pas pourquoi on fait ça.
C'est un joli prénom, Karine.
Je vous remercie beaucoup.
Vous aimez votre prénom?
Oui, ça va, mais je dois toujours préciser que c'est avec un C, donc c'est embêtant.
Ah, pourquoi? Pourquoi c'est embêtant?
Parce que je dis c'est Karine avec un C, parce que les gens l'écrivent avec un K.
Alors, j'ai l'impression que vous êtes une jeune Karine de 30 ans. Il y avait plus de Karine dans ma génération que dans la vôtre. J'ai l'impression que c'était déjà un peu moins à la mode, Karine, quand vous êtes née.
Ah, c'est possible. Hein,
c'est vrai. C'est un joli prénom, Karine.
Je suis contente de vous avoir eu. Je vous écoute tous les jours sur RTL.
Eh bien, écoutez, vous êtes gentille, Karine. Ça me fait
merci
plaisir. Et puis, rappelez-nous avant Noël pour nous donner des renseignements, pourquoi pas, sur la manière
volontiers
dont ça se... Hein, voilà, c'est sympathique d'avoir une jeune femme comme ça, pleine d'énergie. Et puis, mes amitiés à votre compagnon, qui est votre mari,
ben,
d'ailleurs.
Merci, tout à fait.
Bon, bah, écoutez, voilà. Merci beaucoup. La pause,
merci.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
C'était il y a 30 ans, Freddie Mercury nous quittait, le leader de Queen, et la version que vous entendez, elle est sur Internet. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir. C'est une classe qui a été entraînée par un professeur de musique et qui a appris le texte et qui chante. C'est une classe assez importante, ça doit être même peut-être toute une école, dans un amphithéâtre, et c'est incroyablement émouvant avec ce prof de musique qui est au piano et qui permet à tous ces jeunes élèves de chanter une chanson qui est magnifique, Bohemian Rhapsody. C'est des jeunes, je crois que c'est un collège britannique. C'est, bon, c'est un collège où ça, me dit Damien Béchiot ?
Norvégien.
C'est norvégien. Mais c'est formidable, vraiment. C'est, alors faites attention, parce que si vous êtes sensible, vous allez pleurer à la fin, parce que c'est émouvant. Mais c'est bien de pleurer aussi. Laurent.
Quel souvenir gardez-vous de Freddie Mercury ? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3210. 6000 classes sont actuellement fermées en France, chiffre annoncé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On était un peu plus de 4000 vendredi dernier. Il s'agit notamment de classes de l'école primaire. Alors, faut-il faire plus de tests, autoriser la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans ? Christelle Gras-Le-Guen, la présidente de la Société française de pédiatrie, était l'invité de RTL Midi.
La communauté pédiatrique et aussi les infectiologues adultes, hein, se sont prononcés pour
un non-urgence. Pas d'urgence à vacciner les enfants à ce stade, dans la mesure où, encore une fois, l'indicateur qui nous préoccupe avant tout, c'est les services de réanimation adulte et c'est le nombre de décès chez l'adulte. Il y a d'autres priorités en ce moment en matière de santé de l'enfant que d'aller les vacciner contre une maladie pour laquelle ils ne sont pas concernés, ou très peu, et en tout cas pour laquelle ils ne sont pas l'élément clé de la dynamique de la circulation virale.
L'année dernière, au pic de l'épidémie, nous étions à 12 000 classes fermées. Vous pouvez réagir au 3210.
Et Foued réagit, il est enseignant, il habite Strasbourg. Bonjour Foued.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes enseignant en école primaire, je crois.
Oui, c'est ça, en CM2.
Voilà, vous nous appelez régulièrement. Quel est votre sentiment, ouais, d'abord sur le témoignage qu'on entendait de Karine? Est-ce que vous avez une réaction?
Oui, bah, j'ai une réaction. C'est vrai que apparemment Karine, en tant que parent, était très 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 gênée de la fermeture de la classe. Mais vous savez, de l'autre côté de la barrière, moi j'ai aussi affaire à des parents qui sont assez contents quand d'éviter le moindre risque et qui peuvent se dire que qui sont plutôt rassurés quand il y a une fermeture de classe, qui préfèrent voir des fermetures de classe que de voir leur enfant risquer de voir leur enfant ramener le virus à la maison. Donc c'est des choses qui sont très très compliquées, parce qu'effectivement on entend beaucoup les personnes qui sont réfractaires aux restrictions et aux pass sanitaires, ce genre de choses, mais vous avez aussi une grande part de la population qui est assez rassurée à chaque fois qu'on prend des mesures.
Et le sentiment que vous avez, vous, lorsque vous êtes avec les parents d'élèves, ils sont plutôt peureux ou plutôt insensibles à la maladie ?
Plutôt peureux, moi. Moi, par exemple, on a enlevé le masque avant les vacances. Pendant la dernière semaine juste avant les vacances, moi à Strasbourg le taux d'incidence était passé en dessous de 50, donc on a eu la dernière semaine avant les vacances la Toussaint sans masque, et le premier jour on devait enlever le masque, c'était du 50-50, j'avais la moitié des élèves qui avaient gardé le masque, et quand je leur ai demandé, ils m'ont tous dit la plupart m'ont dit que c'était leurs parents qui leur demandaient. Donc,
c'est intéressant, ça c'est vraiment,
oui,
intéressant. Je pense qu'en plus vous avez, alors là c'était 50-50, vous voyez, alors qu'il y a,
oui,
donc c'était 50-50 à un moment où le taux d'incidence était bas, donc vous imaginez aujourd'hui.
Oui, exactement,
aujourd'hui ça serait peut-être du 80-20.
Beaucoup les gens qui sont opposés aux restrictions, mais ça a l'agrément d'énormément de personnes. Et beaucoup de gens sont en attente justement de restrictions, de davantage de restrictions.
Je pense que vous avez raison. Je pense que le gouvernement, d'ailleurs, depuis 2 ans, c'est souvent une politique de la demande. Moi, j'ai le sentiment que c'est les gens qui, effectivement, majoritairement, veulent être protégés de cette manière-là. Je ne suis pas forcément sur cette ligne-là à titre personnel, mais je pense que je suis ultra minoritaire.
Oui, mais je pense aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir, d'ailleurs, que globalement, il y a moins d'opposition dans la rue, d'opposition violente. On voit beaucoup plus de manifestations en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, qu'en France. Alors qu'à la France, historiquement, c'est une population qui va assez facilement dans la rue. Mais par rapport aux restrictions, on l'a moins remarqué. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui vont vouloir s'opposer lorsqu'on on augmentera l'essence, le diesel de 2 centimes, qu'à chaque restriction. Il y a eu très peu de mouvements dans les rues, de mouvements d'opposition un petit peu limite violent. En France, il y en a eu peu par rapport à nos voisins européens qui sont pourtant vus comme plus disciplinés habituellement.
Ben merci Foued, on est avec Nathalie qui est enseignante. Alors vous, c'est CM2, Foued, et parfois j'ai la nostalgie du CM2, cours moyen, deuxième année. Et là, on va aller au cours moyen, première année, avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous enseignez en CM1 ?
Exactement.
Eh bien, moi, je me souviens que la jeune femme qui m'enseignait en CM1 s'appelait Madame Geffroy.
Ah oui, on a tous un souvenir d'un ou deux.
Oui. C'était Madame Geffroy,
du primaire.
À l'école du Bois Saint-Louis. Bon, Nathalie, que pensez-vous de ce sujet,
moi,
et notamment de la vaccination pour les enfants ?
Moi, je rejoins mon collègue, les parents sont, en tout cas dans mon école, assez peureux. Mais on a aussi des parents réfractaires, malheureusement. Mmh. L'année dernière, ça m'a fallu une plainte, hein. J'ai dû porter plainte.
Pourquoi ?
Contre un parent qui m'a fait un faux, en fait.
Il vous a fait un faux, c'est-à-dire un faux ?
Bah, c'est-à-dire que j'ai un enfant qui était positif. Donc,
oui.
Suite à ça, les enfants devaient revenir en classe à condition qu'ils se soient fait tester, antigénique ou PCR, peu importe, et qu'ils nous prouvent qu'ils pouvaient rentrer tranquillement en classe étant négatif. Et ben, moi, j'ai une maman qui m'a dit ma fille, je ne citerai pas le nom, ma fille est négative. Et en fait, quand je lui ai demandé le test, la preuve, Elle m'a fait un scandale, le père est venu en furie, il m'a insulté, et il m'a dit que c'était que je travaillais comme en 40. Et finalement, en plus, la petite a pleuré en me disant non,
mais oui, c'est pas malin, c'est vraiment pas intelligent. Mais où elle en est, cette plainte ?
Eh ben, on attend.
Non, mais c'est le climat aujourd'hui, c'est terrible, hein, franchement, c'est terrible pour vous, l'enseignante que vous êtes.
La petite était victime, la petite, la pauvre, elle avait rien demandé à personne.
Mais bien sûr, et puis c'est les enfants qui. Bon, restez avec nous parce que on a une pause à faire passer. On a Olivier à entendre.
Avant ou après, Pascal ? Maintenant ? Maintenant, j'interviens maintenant ?
Vous voulez intervenir quand ?
Non, mais tout de suite, si vous voulez.
Vous voulez intervenir demain, après-demain, à midi, à minuit ?
Pourquoi pas, vous savez que je vais rester, Pascal, hein, toute l'année.
Toute l'année, on est là jusqu'à 18h, j'ai dit tout à l'heure, tellement on a de sujets.
Sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal, pour Laurent, les enfants ne sont pas concernés par cette épidémie, il ne faut pas les faire vacciner. Nathalie, à l'inverse, si on avait vacciné nos enfants avant, l'épidémie serait derrière nous. Et on se quitte avec Kikou qui nous dit Kikou. Tout ça, c'est de la propagande vaccinale. Kikou, oui, c'est Kikou.
Vous aimez Queen, Olivier ?
J'adore Queen, passionné.
Freddie Mercury, vous aimez bien ?
Ça me parle beaucoup, Pascal.
Bon, 13h52, on ne sait plus si c'est... Jean-Alphonse Richard est là et il est témoin de ce que vient de dire Olivier. Il y a une incertitude sur ses propos.
Un petit peu, ouais. Il est né où, Freddie Mercury ?
Ah bon, je ne sais pas. Il est né où ? Moi, je ne sais pas où il est né.
Je vais me renseigner.
Chercher, vous allez voir, c'est très étonnant.
C'est évident ? Bon, en tout cas, le film était très bien. Le biopic de Freddie Mercury était très, très bien. C'est il est né en Tanzanie, je pense.
Un lieu magique.
À Zanzibar.
Exactement.
À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On peut parler de Grenoble dans l'émission. La mairie débloque 11 000 euros pour l'aménagement d'un rond-point occupé par les Gilets jaunes qui réclamaient de meilleures conditions pour leur squat improvisé. Des tables, des bancs, des jardinières, un plancher en bois sont en train d'être installés. Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, s'est justifié dans RTL Midi.
Il y a un bout de ville qui ne sert à rien et il y a des gens qui disent tiens, nous avons le projet d'y faire un peu de mobilier urbain.
Vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi, monsieur Piolle, dans votre argumentation ?
Non, je sais être de mauvaise foi, mais en l'occurrence, là, je pointe.
Bah là, j'ai l'impression que vous l'êtes un peu.
Deux poids, deux mesures, parce que sur ces 45 chantiers, on appelle ça dans les quartiers populaires, on appelle ça dans le centre-ville, on appelle ça partout, ils se retrouvent. Là,
c'est un club pour discuter.
Donc là, vous êtes de très mauvaise foi, en fait.
Non, ils sont là, ils se retrouvent et ils discutent.
Êtes-vous choqué par cette décision ? 32-10, 32-0.
Mais c'était sympathique en même temps, ça faisait de la bonne radio, comme on dit dans ces cas-là avec M. Piolle. Et puis, l'auditeur, il écoute et puis il se fait une opinion. Voilà. Il se fait une opinion 13h56 avec Jean-Alphonse Richard et l'heure du crime.
Bonjour,
qui arrive.
Pascal.
Bonjour.
Alors aujourd'hui...
Est-ce qu'il y aura des crimes de Noël ? Est-ce qu'il va y avoir une spéciale Noël bientôt ?
On prépare ça, mais on ne peut pas tout dire.
Oui, mais le crime de Noël, c'est quand même particulier. Mais est-ce que vous allez nous préparer des trucs qui se sont passés ?
Il y a des histoires de Noël. Il y a une histoire formidable qu'on avait fait d'ailleurs à la Noël dernière. On ne va pas la refaire, mais l'histoire des disparus de Noël. Toute une famille qui avait disparu le jour de Noël. C'est extraordinaire. C'est une histoire. Mais
pourquoi vous ne la refaites pas ?
On l'a déjà faite l'an passé. Donc nos auditeurs vont dire, vous avez une sacrée imagination.
Les gens ont oublié peut-être.
Non, je ne suis pas sûr. Les gens n'oublient pas. Et les gens nous suivent. Et les gens nous notent. Et nous regardent.
Ils ont envie alors de réécouter.
Et c'est pour ça que chaque fois, on essaie de leur donner des produits frais. Parce que l'heure du crime, c'est en direct tous les jours sur RTL. Je ne vends que du poisson frais, mon cher Pascal Pro. Aujourd'hui, encore du frais, Ghislaine Maxwell. Alors Ghislaine Maxwell, c'est l'égérie de Jeffrey Epstein aux États-Unis, l'homme qui s'est suicidé, le milliardaire pédophile. C'est la femme qui vaut 1 million de secrets aujourd'hui. Elle va être jugée la semaine prochaine, lundi prochain, son procès va s'ouvrir. Est-ce qu'elle va parler ? Est-ce qu'elle va raconter ? Est-ce qu'elle va dire comment Bill Clinton, par exemple, venait lors des voyages d'Epstein ? Est-ce qu'elle va dire que le prince Andrew également était là ? Pas sûr.
Elle est en prison, cette femme ?
Elle est en prison, évidemment. Elle a 59 ans, elle est en prison. Et d'ailleurs, dans des conditions extrêmement dures, puisque ses avocats français, qu'on aura en ligne tout à l'heure, viennent de saisir l'ONU, là-dessus, sur les conditions de détention.
Elle est où ? Elle est dans quelle ville américaine ?
Brooklyn, en détention, tout près de New York. Et elle sera jugée à New York.
Merci Jean-Alphonse, c'est passionnant et on a envie déjà d'y être à 14h30. A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
C'est lors d'une conférence de presse demain à la mi-journée que le ministre de la Santé Olivier Véran annoncera de nouvelles mesures mises en place pour ralentir la flambée des contaminations. Ce matin, lors du Conseil de défense sanitaire, des objectifs très clairs ont été posés. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Ne pas avoir à en revenir à des mesures de jauge et encore moins à des mesures de fermeture, de couvre-feu ou de confinement dans notre pays. D'abord, le renforcement des mesures barrières et du port du masque en intérieur comme en extérieur, l'aération, l'ensemble des mesures barrières qui permettent de nous protéger vis-à-vis des contaminations. Ensuite, le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés. C'est notre logique, vous le savez, depuis l'allocution du président de la République le 12 juillet dernier. Enfin, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal.
Gabriel Attal qui précise que le pass sanitaire et la couverture vaccinale en France permettent de ne pas vivre la cinquième vague comme chez nos voisins. À ce propos, l'agence de l'Union européenne chargée des maladies appelle les États membres à prendre urgemment, je cite, des mesures face au rebond épidémique, mettant en exergue le risque de fardeau sanitaire très élevé en décembre et en janvier. Et à l'instant, la présidente de la Commission européenne estime, elle, que les doses de rappel doivent être disponibles pour tous les adultes, en donnant la priorité aux plus de 40 ans. Nicolas Hulot quitte la vie publique visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol qu'il nie farouchement. L'ancien ministre souhaite protéger ses proches et sa fondation des retombées du lynchage. « Je suis écœuré », dit-il. « Je ne m'exprimerai plus, c'est trop lourd payé. » Quel avenir pour Stéphane Richard au sein d'Orange. Je vais aller trop vite. Un conseil d'administration de l'opérateur doit avoir lieu en fin de journée après la condamnation de son PDG dans l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais. Un an de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende. Voilà la peine infligée à Stéphane Richard en appel, sachant que celui-ci a décidé de se pourvoir en cassation. Autre décision de justice que je vous rappelle, Karim Benzema fait appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable de complicité de chantage dans l'affaire de la sextape. La météo, le mauvais temps s'installe sur le sud. Attention, en ce moment même, il y a toujours cette vigilance orange dans le département de l'Aude. Vigilance aux pluies. Et aux inondations. Les courses au Mans, elles viennent tout juste de se terminer. Je vous donne l'arrivée provisoire le 5, le 8, le 16, le 3 et le 4. Le 5, le 8, le 16, le 3 et le 4. Il est 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal.
Merci Agnès, à 14h03, effectivement.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Alors, on a parlé de Nicolas Hulot. On a parlé des classes qui ferment. On aurait pu parler du procès Tapie. On aurait pu parler de Benzema. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Mais on va parler de Grenoble. Grenoble, on était avec tout à l'heure le maire de Grenoble. Je rappelle que la ville de Grenoble a accepté de financer pour 11 000 euros l'aménagement d'un rond-point qu'occupe depuis 2 ans chaque samedi une vingtaine de gilets jaunes. Cette somme a déjà permis de financer une pergola en bois construite grâce à l'aide des agents municipaux. Benoît est avec nous, il est chauffeur-livreur, c'est un ancien gilet jaune. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous?
Et vous-même?
Ben écoutez, ça va très bien. Ça va très bien, ça va très bien. En même temps, je suis un peu surpris, un peu excédé, parce que par cette nouvelle sur Grenoble, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. J'ai envie de dire que politiquement, c'est plutôt bien joué de la part de la mairie, parce que finalement, offrir aux gilets jaunes, parce qu'on parle vraiment d'offrir aux gilets jaunes ici un local pour se réunir, pour voilà, ça peut, je pense, casser la dynamique des gilets jaunes, qui est bien entendu cassé depuis un petit moment, mais là encore plus, c'est-à-dire qu'on va les faire taire par le biais, je pense, de cette offrande de 11 000 euros. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi aller offrir 11 000 euros à des gilets jaunes, dans le sens où j'imagine que sur Grenoble, étant une grande ville, il y a quand même des locaux municipaux qui seraient à disposition et à disponibilité et qui pourraient être mis à disposition finalement des gilets jaunes. Et puis finalement, donner 11 000 euros à des gens qui réclament un peu plus d'argent, offrir 11 000 euros pour du confort que certains n'ont pas, je trouve ça un petit peu exagéré et franchement exagéré. Moi, ça me met un peu hors de moi de voir ce genre de choses-là parce que je trouve que c'est de l'argent des citoyens qui est gaspillé pour le confort de certains. Voilà.
Oui, et puis alors, il y a peut-être une action politique derrière, un symbole, une manière de faire de la publicité pour M. Piolle. C'est un signe qu'il envoie à une partie de la population aussi, hein, faut pas être naïf. Exactement. Parce que les 11 000 euros, c'est pas grand-chose. On le sait bien, dans le budget d'une ville, 11 000 euros pour faire une pergola, c'est pas ça qui va grever le budget de la ville de Grenoble. Mais forcément, c'est un acte politique de la part de M. Piolle.
Finalement, je suis pas complètement d'accord avec vous, M. Pro, parce que 11 000 euros, oui, c'est certain, c'est pas grand-chose. Mais il y a combien d'actions de cette envergure qui sont faites sur la ville de Grenoble et sur d'autres villes. Donc finalement, pour moi, ça reste encore une fois de l'argent qui est gaspillé et qui pourrait être mis... Alors, j'ai vu un article à ce sujet parce que lorsque j'ai eu Olivier au téléphone tout à l'heure, je suis quand même allé prendre quelques renseignements supplémentaires et il y a une entreprise de 13 salariés qui est en difficulté à Grenoble aujourd'hui parce que son stock a complètement brûlé. Et alors, je ne sais pas s'il va y avoir une aide, mais finalement, ces 11 000 euros-là, je pense qu'ils auraient été... mieux utilisé pour cette entreprise-là de 13 salariés qui se trouve aujourd'hui au chômage technique que pour une pergola pour des gilets jaunes, surtout quand on sait ce qui a pu se passer dans différents bâtis effectués par les gilets jaunes sur différents ronds-points ou dans différents endroits sur toute la France. On sait que c'est pas forcément pour se rassembler, pour se réunir, mais il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites dans ces endroits-là. Donc je suis excédé par ça, quoi.
Merci, Benoît. Vous habitez Guingamp ?
J'habite proche de Guingamp et je voulais juste passer un petit mot par rapport au sujet précédent. Parce que figurez-vous que monsieur Nicolas Hulot, moi j'ai eu la chance d'être en duplex lors des Gilets jaunes avec monsieur Nicolas Hulot juste quelques mois après qu'il ait quitté le gouvernement. Et je trouve que ça fait un peu beaucoup pour quelqu'un qui quitte trop facilement et trop souvent son poste ou ses postes ou son travail public finalement. Avant d'être mis en cause. Et tout à l'heure, il a dit dans une interview, la séduction, c'est l'essence de la vie. L'essence de la vie, monsieur Hulot, c'est pas la séduction. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Oui, alors c'est une des essences, quoi. Ça fait partie de la vie. Moi, je l'ai interprété comme ça. La séduction fait partie de la vie. C'est comme ça, sans doute, ce qu'il voulait dire, Benoît.
Sûrement, j'espère.
Oui, il n'y a pas que séduire dans la vie. Il y a aussi y a plein d'autres choses. Mais vous n'aimez pas séduire, Benoît ?
C'est pas l'essence, c'est pas un besoin personnel et particulier que j'ai, même si je suis célibataire à 47 ans.
Ben merci en tout cas, vraiment merci beaucoup. Et puis bonjour du côté de Guingamp, Lamballe, Saint-Brieuc. Magnifique. Les Côtes d'Armor, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Monsieur Tessier.
Et merci Monsieur Pro. Il y a 30 ans, le 24 novembre 1991, Freddie Mercury, le leader de Queen, nous quittait. I want to break free. I want to break free. Une personnalité qui avait révélé qu'il était malade du sida. Quel souvenir gardez-vous de l'artiste à la carrière monumentale au tube planétaire ? Parlez-nous de Queen, parlez-nous de Freddie Mercury. 32-10, 3-2-1-0.
C'était il y a 30 ans, hein, Freddie Mercury. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le premier ou la première personnalité quasiment qui avait annoncé être... D'ailleurs, je ne sais pas s'il l'avait annoncé. On l'avait su qu'il avait le sida, mais je ne sais pas s'il avait annoncé publiquement le sida. Parce qu'il faut se souvenir, ce qui était en 1991, annoncer qu'on avait le sida. On était terrorisé lorsqu'on avait 25-26 ans, lorsqu'on faisait un test. Parce que apprendre à cette époque-là qu'on était séropositif, c'était annoncé, c'était une mort programmée quasiment en 91. Hein. La trithérapie n'était pas arrivée, bien évidemment. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vivent avec le sida, qui veulent nous appeler et qui l'ont depuis très longtemps. Et leur témoignage sera intéressant. Juste un mot sur Benzema. Bonjour, avec Jamel. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour. Alors, je rappelle que Karim Benzema a été condamné tout à l'heure à un an de prison. Avec sursis. Et voilà, il a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France. Un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Qu'en pensez-vous ?
Exactement, Pascal. Bah, écoutez, ce que j'ai dit à votre collègue au téléphone, en outre, c'est que ça ne changera rien du tout à À son côté sportif, comme je dis toujours, hein, des affaires, il y en a eu chez d'autres sportifs de très haut niveau. Benzema, aujourd'hui, c'est...
Ah, manifestement, la ligne a coupé. Jamel, vous êtes toujours là ou pas? Je ne sais pas s'il va faire appel ou pas, d'ailleurs. Hein. Je sais pas
il a fait appel, déjà.
Il a fait... Bah, écoutez, vous êtes plus...
Il a fait appel, ouais.
Vous êtes... voilà, les avocats de... Oui, dites-moi, oui, vous avez raison. Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client faisait appel du jugement. Vous avez parfaitement raison.
Exactement.
Pardonnez-moi. J'étais
exactement.
Distrait. Bravo.
Non, il n'y a pas de souci.
Mais vous trouvez que... Mais là encore, c'est quand même très difficile d'avoir une opinion sur le fond du dossier, puisqu'on n'a pas tous les éléments.
Exactement. Ben, en fait... comme je disais à votre collègue au téléphone tout à l'heure, c'est que des sportifs comme ça qui sont très 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 exposés, pour moi ça ne changera rien du tout à ses capacités sportives ou à sa sélection de l'équipe de France, parce qu'on parle de ça. Est-ce que ça va changer quelque chose sur sa sélection? Je pense que au contraire, je pense que c'est déjà mis de côté, c'est derrière nous tout ça en fait, du côté de l'équipe de France. Donc après il arrivera ce qu'il arrivera pour ma part, mais je pense que voilà, il sera bien au mondial pour le Qatar et puis les affaires...
Bah c'est ce qu'a dit en tout cas Noël Le Graët. Merci beaucoup Jamel de ce témoignage.
Rien,
Olivier sur la page Facebook.
Allez, sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal pour Rémi, Benzema coupable mais toujours en équipe de France, trouver l'erreur. Jérôme écrit, les violences dans les stades ajoutées à cette affaire, le foot français ne dégage pas une bonne image. On termine avec Erika, on s'attaque à Benzema car ça fait vendre.
Oui, alors je ne sais pas si ça fait vendre, mais en tout cas, il s'est exprimé au micro de Christian Olivier, Noël Le Graët, le président de la fédération. Il a dit la FFS s'était portée civile. Réponse, c'est pour avoir connaissance du dossier et de faire encore plus fort la déclaration que je viens de faire, à savoir que si quelqu'un dans une entreprise qui a un accident et qui a tort, il prend 3 mois avec sursis et une amende, on l'empêche de travailler. Il n'y aura donc pas de critique. Les joueurs sont intelligents, le public est fantastiquement intelligent. Il a été suffisamment marqué. Martyrisé, a dit également Christian, a dit Noël Le Graët à Christian Olivier. Il a été suffisamment martyrisé depuis 5 ans pour qu'on n'y ajoute pas une augmentation de peine. Il n'y aura pas de suite sportive. Il n'est pas question que la fédération prenne une sanction contre Benzema. Il se conduit bien. De quoi se plaint-on ? A-t-il conclu. 14h14. Ça rime. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est la même version dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une classe en Norvège qui a interprété Bohemian Rhapsody avec un professeur de musique au piano. Vous pouvez voir, écouter cette version sur Internet. Vous tapez classe... Bohemian Rhapsody et ça sort tout seul et c'est formidable, c'est émouvant comme tout, c'est merveilleux. Laurent est avec nous, bonjour, qui habite Metz. Queen.
Bonjour.
Queen, c'est votre jeunesse?
Alors non seulement c'est ma jeunesse, mais Freddie Mercury m'a laissé une réelle cicatrice au sens propre comme au sens figuré à l'âge de 16 ans. Et le jour de la mort de Freddie Mercury, j'étais hospitalisé et j'ai subi l'appendicite et à mon réveil, quand je suis arrivé en chambre, j'ai appris le décès de Freddie Mercury. Là, rien que vous en parler, j'ai comme beaucoup d'émotions et ça a été pour moi un moment très important de ma vie parce que je me suis raccroché beaucoup à ses chansons et au-delà de l'homme qu'il était, et d'avoir brûlé la vie par les deux bouts, grillé même pas par les deux bouts, c'était quand même un exceptionnel chanteur de par sa vie et puis de par son idéal vocal et de sa personnalité, parce qu'on peut dire que c'était une réelle personnalité. Moi, il m'a personnellement touché et encore aujourd'hui, je suis allé à Montreux avec ma compagne voir la statue qui a été érigée. Juste à côté, il y a le casino où il y a un petit musée. Qui est dédié justement, qui était un studio d'enregistrement dans lequel ils ont fait plusieurs albums, où c'est comme un lieu de pèlerinage. Vous voyez, avant-hier, il y avait une émission sur Ces Stars, ce soir, il y en a une sur TMC, où on apprend plus ou moins toujours les mêmes choses. Mais celle de Ces Stars était très bien faite avant-hier, parce que c'était faite par un journaliste français qui allait à Londres, qui a rencontré des gens qui ont vécu avec lui, des vrais fans. C'est très intense, quoi. Et moi, aujourd'hui, enfin moi dans ma playlist quotidienne, c'est du Queen. Alors je dis pas tout le temps, hein, parce que je ne vis pas autour de Queen et de Freddie Mercury, mais néanmoins il y a quand même quelques morceaux qui me font vibrer et qui me feront éternellement vibrer. C'est une certitude.
Le Magic Tour était la dernière et la plus grande tournée hein, de Queen. Il l'a emmené en 86 dans 26 villes en Europe. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir sur scène, et notamment à Wembley. Il y a un live très célèbre à Wembley.
Ah bah c'est l'ultime. Après, il y a eu le concert à Nembouers Park qui a terminé cette tournée. Mais c'était... j'aurais aimé le voir quand il était passé en France aux arènes de Nîmes dans les
voilà, années 70. Il est passé à Fréjus. Hein,
à Fréjus, pardon.
Ça devait être à Nice et il est passé à Fréjus en 86. Et c'est vrai que c'est, je crois, alors faudrait demander à notre ami Eric Jean-Jean, mais je crois que c'est une des rares fois où Freddie Mercury a chanté en France. Hein, peut-être est-ce la seule fois d'ailleurs.
Oui. La tournée a été.
C'est The Magic Tour.
Ouais.
Ça durait, je crois, 3 mois et dans toutes les villes européennes.
Comme un concert d'adieu, quoi, un grand concert d'adieu généralisé. Ça aurait dû être une fête, mais j'avais que 16 ans malheureusement en 86. Donc,
et terminé par God Save the Queen.
Ouais, toujours en hommage.
We Will Rock You, évidemment, dans les rappels. We Are the Champion, dans les rappels. Et God Save the Queen. Et Bohemian Rhapsody, qui est absolument formidable. Personne n'en voulait de cette chanson, paraît-il. Vous avez aimé, j'imagine, le biopic. Il est bien, le biopic.
Ah, il était fantastique. Rami Malek,
il est vraiment bien.
Quand je suis sorti de la salle, j'ai envoyé un de mes meilleurs amis, j'ai dit qu'il mérite l'Oscar.
Ouais, il était vraiment bien.
C'était un bel hommage. Mustapha, ça restera une de très belles chansons aussi, des années 70, très peu connues, de l'album jazz.
Ouais, c'était l'intro, hein, Mustapha, généralement.
Oui, au début, hein, dans les premières tournées.
Ouais, c'est ça, c'était toujours Mustapha à l'intro. C'est vrai que c'est une belle chanson, Queen. Bah, c'est un peu notre jeunesse, Laurent. Vous avez 57 ans, vous êtes de 64 ?
Non, 46 ans. 46
ah bon, ben là, c'est marqué 57 ans sur la fiche. Ah. Ils vous ont mis 10 ans de plus.
J'aurais bien aimé avoir 10 ans de plus pour pouvoir participer à un concert. Oh que oui. Ah oui, Don't Stop Me Now. Eh oui. Ça met la pêche. Le matin, vous allez pas bien. Vous regardez le soleil, il pleut, vous mettez ça, vous repartez. Ouais, vous avez gagné la journée. Having such a good time, having a ball. Allez.
Oui. Vous êtes musicien, Laurent ?
Pas du tout. J'ai fait partie d'une chorale où j'avais un jour, j'avais un petit peu insisté auprès de ma chef de chœur pour passer une chanson. Malheureusement, les choristes qui m'accompagnaient n'étaient pas du tout anglophones et je voulais qu'on la fasse en phonétique. Je l'ai tenté de la proposer en phonétique et malheureusement, c'est pas passé. Voilà, quel dommage.
Je le dis très souvent quand on écoute de la musique, il paraît-il que nos playlists s'arrêtent à 27 ou 28 ans, que plus rien n'entre après. Et c'est vrai que ces chansons-là évoquent vraiment notre jeunesse, en tout cas la mienne. Donc ça nous touche peut-être plus que d'autres chansons. Forcément, on avait 18 ans.
Et vous avez vu un concert, Pascal ?
Ah non, moi, j'ai pas vu de concert de Queen, non. Parce que je suis pas allé à Wembley, je suis pas allé à Fréjus. Donc, mais j'avais les albums... sur ma chaîne Ifi à l'époque. Bah vraiment merci
Laurent, je vous en prie,
vraiment merci, vraiment merci beaucoup, c'était un plaisir. On va pas pleurer quand même, bien sûr, mais c'était un plaisir. Monsieur Tessier est là. On pourrait pleurer sur Freddie Mercury parce qu'il était tellement magnifique.
Ah oui.
14h24, le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est l'annonce qui vous a fait réagir au standard, celle de Nicolas Hulot ce matin chez nos confrères de BFM. L'ancien ministre a dévoilé être visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol.
Je quitte définitivement la vie publique, tout simplement parce que je suis écœuré. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement et je ne m'exprimerai plus. Dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. C'est trop lourd payé.
Accusation démentie par Nicolas Hulot.
Je n'ai jamais contraint qui que ce soit, ni de près ni de loin. Je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères.
Et Laurent a pris son téléphone pour réagir à cette annonce.
c'est scandaleux. Ce qui lui arrive, mais complètement scandaleux. Imaginez-vous que cette personne, Nicolas Hulot, sont des personnes publiques. Ce sont des cibles, comme Karim Benzema. Imaginez-vous que ces gens-là coûtent de l'or, valent de l'or.
Et aujourd'hui, on avait vraiment le choix des sujets dans l'émission.
Alors, on a une tonne de sujets aujourd'hui. C'est-à-dire
beaucoup d'actualités.
L'arbitrage tapis, Benzema, Nicolas Hulot qui arrête définitivement la vie publique, le maire de Grenoble que vous venez d'entendre, le Covid avec les restrictions peut-être. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 18h avec les auditeurs.
Ah, alors la direction n'est pas au courant, faisons-nous plaisir, changeons les horaires des auditeurs ont la parole. Jingle, Damien Béchiot.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 18h sur RTL.
Ah, c'est bon tout ça, et comme on a tout notre temps, on peut s'arrêter et poser des questions encore plus pertinentes.
Vous aimez votre prénom ?
Oui, ça va, mais je dois toujours préciser que c'est avec un C, donc c'est embêtant.
Ah, pourquoi ? Pourquoi c'est embêtant ?
Parce que je dis c'est Karine avec un C, parce que les gens l'écrivent avec un K.
Il est temps de s'habiller. On peut rendre aussi hommage à nos professeurs.
Vous enseignez en CM1 ?
Exactement.
Eh bien, moi, je me souviens que la jeune femme qui m'enseignait en CM1 s'appelait Madame Geffroy.
Ah oui, on a tous un souvenir d'un ou deux.
C'était Madame Geffroy,
du primaire.
À l'école du Bois-Saint-Louis.
Adieu, monsieur le professeur.
Et tant qu'on y est, une petite consultation avec Patrick, si vous vous sentez fatigué.
Je vous trouve très en forme, hein. Faut continuer comme ça. Hein. Là, franchement, là, en ce début de semaine, vous avez la pêche, hein, c'est bien. Hein.
Ben, c'est très gentil.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On n'ira pas jusqu'à 18h. On laisse l'ami Jean-Alphonse Richard. N'oubliez pas...
Magnifique. Alors, j'adore lorsqu'on nous rend visite dans le studio. On parlait il y a quelques instants d'Éric Jean-Jean avant de retrouver Jean-Alphonse Richard. Et je disais, Freddie Mercury a peut-être chanté une seule fois en France à Fréjus. Et je disais, il faudrait confirmer avec... Éric Jean-Jean, et il est là dans le studio.
Il a chanté aussi à Paris. Enfin,
il a chanté plusieurs fois.
Oui, oui. Et puis c'était toujours assez spectaculaire quand il montait.
Il y aura une émission spéciale ce soir, Queen.
On a fait une grosse émission spéciale. C'était lundi soir avec l'histoire de Queen. C'est facile à trouver sur le replay. Pardon, j'ai parlé pendant que vous étiez en train de bavarder.
Mais c'est la vie. Le studio, c'est la vie maintenant.
C'est l'amour. Je vois mon pote Pascal qui dit bon non, alors je descends l'embrasser.
Bon, d'abord vous êtes gentil, mais l'heure du crime c'est la vie, mais c'est souvent la mort. Il faut le dire. Monsieur Jean-Alphonse.
Il n'y a pas de mort aujourd'hui, mais c'est l'affaire Ghislaine Maxwell. Est-ce qu'elle va dire toutes les vérités, tout ce qu'elle sait? La femme qui vaut 100 millions de secrets. Tout de suite sur RTL.
On vous écoute, ami.
Salut Jean-Alphonse.
Salut.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.